va continuer notre méditation sur la notion de consécration ou consommation. J'invite ceux qui prennent l'étude en marche à aller sur le site, parce qu'on a eu l'occasion de faire une introduction pour bien définir qu'est-ce que nous appelons consommation et consécration. Venons-en au fait et au rappel que la consécration n'est pas un devoir, mais c'est le reflet d'une mentalité. Voilà, ça c'est vraiment très important. Dieu nous a pas appelés à être des soldats au sens des robots, pardonnez-moi, c'est le mot que je cherchais plutôt. Il nous a pas appelés à être des robots. Il faut pas. Mais il nous appelle à avoir une mentalité. La consécration, de ce fait, est un révélateur. Si c'est pas une obligation, c'est que la consécration est donc un révélateur, par contre, de notre devoir de disciple. Au regard de la consécration, et je le rappelle, n'est pas une question d'activisme, mais de préférence, alors on peut voir ce qu'il y a véritablement dans le cœur de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment important aussi, parce que bien souvent, on mélange activisme à la consécration, mais on peut être rempli d'activité et pas du tout avoir un cœur consacré. La consécration, comme Jésus l'a dit, si quelqu'un ne me préfère pas à sa mère, à son époux, à son épouse, à ses enfants, il ne peut pas être disciple. Donc c'est la consécration, c'est un état de cœur, une mentalité, une préférence, un amour, un attachement. C'est véritablement à partir du cœur. C'est ça la vraie consécration que le Seigneur veut, parce qu'il sait très bien que quand le cœur est touché, alors tout le reste de la vie est impacté. Et après avoir vu la notion de consécration par rapport à la place de Jésus dans notre vie, je vous laisse juste regarder les dessins, ils sont parlants. Jésus est-il juste une option de ma vie ou est-il véritablement le centre de ma vie? Après avoir vu la notion de consécration par rapport à la parole de Dieu, est-ce qu'elle est mes délices? Ou alors, effectivement, comme on le voit de l'autre côté, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a ceux qui ont gardé la parole et eux, ils savent qu'ils ont la vie éternelle dans leur cœur. Et puis ceux qui sont beaucoup plus négligents. Mais ceux qui peuvent en témoigner, c'est dans le psaume 119, verset 91. Il faut relire le verset en entier. Mais le psalmiste dit, parce que ma consécration n'était plus là, alors je sentais ma misère, je périssais dans ma misère. La consécration à la parole de Dieu, l'attachement à la parole, non pas seulement la lire pour la lire, mais retrouver un délice, un plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons voir la notion de la consécration dans le domaine du service, et nous ferons aussi une allusion sur la notion des offrandes. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 20. Jacques, c'est juste après le livre aux Hébreux. Jacques chapitre 2, verset 14. Évidemment, ça commence par mes frères, mais nous sommes tous concernés, frères comme sœurs. Mes frères, que sert-il? Quel est l'intérêt? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Là encore, hein, je m'arrête un instant. Le but de l'étude, ce n'est pas seulement d'être rempli de connaissances sur les choses, mais quand on dit que la consécration est révélateur de quelque chose, la question va se poser jusqu'à la notion du salut. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur, il prend une image évidente, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », situation burlesque, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, bon, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Pas de commentaire à faire ? Tout est dit ? Alors, bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi parce que nous croyons que Christ est mort à la croix pour nos péchés et que ce sont nos péchés qui nous privent de la relation avec Dieu. Donc, ce ne sont pas par nos œuvres que nous pouvons accéder au paradis. Ce n'est pas nos œuvres qui sont méritoires. Ça, ce n'est pas du tout le sens du propos. Mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Et nos œuvres justifie notre foi. Notre foi est justifiée par nos œuvres. Et c'est pourquoi qu'il dit que celui qui a la foi et qui n'a pas les œuvres, mais cette foi, elle est inutile, elle n'a pas de sens. Elle serait semblable à celui qui va dire à sa femme, oh, je t'aime, mais toute l'année, il n'est pas là, quoi. Et il ne prend pas de ses nouvelles, il ne cherche pas à lui communiquer, il ne lui témoigne pas d'amour. Ça n'a pas de sens. C'est juste de la belle poésie. La consécration dans les œuvres, quelque chose d'important. Notre service peut être de différentes natures. On ne vise pas quelque chose. On se rappelle que c'est une notion de consécration, de cœur. Et dans le service, on peut être amené à faire le ménage, à s'occuper de l'enseignement. On peut exercer l'hospitalité. La Bible nous dit que la prière est un service. Actes chapitre 13. On peut être investi dans des visites, on peut être investi dans des choses techniques, ça peut être organisé par l'Église, ça peut être fait de manière tout à fait individuelle, personnelle, ça peut être un service visible des autres, ou ça peut être effectivement ce service dans la solitude, dans l'intercession. J'avais été très touché au début de ma conversion. Le Seigneur m'avait appelé à m'occuper d'un groupe d'évangélisation. Alors, on était plusieurs à travailler. Et dans ce groupe d'évangélisation, il y avait une personne d'un certain âge. Quand je dis certain âge, c'est, je pense, entre 65 et 80 ans. Et cette femme, de la voir, on sentait qu'il y avait de la consécration dans son cœur. Il y avait de l'amour dans son cœur. De toute façon, vous rentriez dans l'église, vous croyiez son regard, tous vos soucis étaient lâchés. Et cette femme, avec son vieil âge, fatiguée, usée par la vie, elle allait dans la rue avec nous. Elle donnait ses prospectus, tout timidement, comme ça. Et un jour, elle est venue me voir et dit, tu sais, Benoît, je vais arrêter l'évangélisation avec vous dans la rue. Parce que je crois que Dieu m'appelle à un autre service, dans la prière. Amen. Ça, c'est la consécration. Elle sait que c'était plus sa place, mais pas pour ne rien faire, pour être investi dans une autre dimension dans le service, celui de la piété. Méditez ce matin deux versets pour comprendre ce que Dieu attend de nous dans le domaine de la consécration et du service. Le premier, allez, on va commencer par l'aspect consommation, le côté le moins glorifiant, le moins positif. C'est en Jérémie, chapitre 48, verset 10, où il est écrit, et je vous ai retranscrit le verset, « Maudit, ça commence mal, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Si vous relisez d'ailleurs le contexte, c'est un contexte très, très lugubre. Mais la philosophie, la pensée de Dieu, elle est là. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Il nous est là parlé de la légèreté dans le service. Il y a plusieurs paraboles que Jésus a pu dire où il met en scène un maître qui demande compte à ses serviteurs du travail qu'ils ont fait. Il y en a plusieurs, hein. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'est-ce qu'on remarque dans les conclusions, dans les remarques que, de ces paraboles? C'est que le maître ne fait pas allusion aux capacités des gens. Il ne fera pas leur reproche qu'ils ont porté beaucoup ou peu de fruits. Mais par contre, ce qu'ils reprochent et qu'ils condamnent, c'est leur paresse. C'est la fraude. C'est la méchanceté. C'est le manque de sérieux. C'est la négligence. Dans toutes ces paraboles, ce que Jésus veut enseigner, c'est la mentalité. Non pas le fruit, non pas leur capacité, non pas ce qu'ils ont fait en tant que tel, mais la mentalité qui a été révélée justement au travers d'un service qu'on leur a demandé. Et où ils se sont révélés être là, négligents, paresseux, menteurs pour certains, égoïstes. Il y a dans cette expression « maudit » non pas une malédiction que Dieu enverrait sur les hommes, ça n'existe pas. Dieu ne maudit personne, il ne souhaite un malheur à personne. Mais dans cette expression, il faut comprendre les malheureuses conséquences. Voilà. Malheureuses conséquences de celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est un avertissement. Ce n'est pas une menace. Dieu n'est pas là pour menacer. Vous savez, le seul qui nous menace, c'est nos propres péchés. Et quand on leur laisse faire, après on pleure. Hein? Oh Seigneur, Seigneur, et ben c'est ça être maudit, c'est ça être malheureux. Alors que si on se tient à la brèche et si on est vigilant, alors on peut éviter de nombreuses catastrophes. Et il y a dans la Bible des exemples de négligence aux conséquences terribles. Je ne les ai pas toutes relevées, mais j'ai relevé peut-être les plus connues. La première des grandes négligences, c'est celle d'Adam. Dieu le place, vous pourrez lire ça en Genèse 2, verset 15, et faire le parallèle avec Genèse 3, verset 1. Dieu place Adam pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Gardien. Et on se retrouve avec le serpent qui est un animal des champs qui se trouve dans le jardin. Il était appelé à être vigilant, à garder le jardin avec ses animaux, avec son enceinte, avec sa culture, avec ce qui appartenait au jardin, et voilà qu'on ne sait comment cet animal des champs se retrouve dans le jardin. Négligence. Négligence. Oh, c'est rien, c'est qu'un petit serpent. Eh oui. Négligence. Je dirais de Noé, lorsqu'il se laissa enivrer. Ce qui a créé une occasion de chute pour son fils Cham, qui eux aussi ont connu une malédiction. Pourquoi est-ce que je parle de négligence? Parce que Noé il s'est enivré jusqu'au point qu'il est complètement évanoui dans le coma éthylique qu'il a fait. Bon, je ne crois pas qu'on ait tous des grands buveurs, mais on a tous eu l'occasion de boire un peu et de s'apercevoir qu'il y a une marge entre le premier verre et le coma éthylique quand même. Il a été négligent, il n'a pas veillé aux premiers symptômes, aux premiers signes. 3 verres, 4 verres, 5 verres, il aurait dû dire « Oh, ça fait bizarre !» Mais il a été négligent, il n'a pas pris soin, il n'a pas fait attention aux signes précurseurs de ce qui pouvait arriver de plus grave. Et là aussi, faisons attention. Nous pouvons être négligents quand on ne prend pas compte des signes qui se passent dans nos vies. Il y a des avertissements, non, dans nos vies. Tout n'arrive pas comme ça. Il y a quelques signes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Conséquence a été très grave pour son fils. Négligence de Saül. Alors qu'il était roi, c'est en 1 Samuel chapitre 15, vous pouvez voir ça. L'histoire de Noé, vous pouvez le lire en Genèse chapitre 9, verset 20. Saül, roi, il a le royaume, il va en guerre, il ne rend pas des victoires. On lui dit, tu vas là, et là, tu saccages tout. Tu n'as rien de vivant. Ouais, il y va. Et puis voilà que par négligence de l'ordre, il décide de garder quelques brebis, le roi ne le tue pas. Négligence qui lui a valu son poste. Parce que c'est après ça que Dieu dit à Samuel, j'ai choisi un autre homme. Négligence. Mais c'est rien, faut pas exagérer, je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais regardez, j'ai rien fait de mal. Négligence dans l'obéissance. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu le fais pas. Tu justifies, tu peux trouver tous les arguments, mais négligence, négligence. Il a perdu son poste de roi. Négligence de David. Un homme l'homme selon le cœur de Dieu. Oh Seigneur Jésus, quel témoignage! Et puis, voilà-t-il qui nous est dit en 2 Samuel chapitre 11 que pendant la période où tous les rois se mettaient en guerre, voilà que notre roi David était resté à la maison. Il a droit, il est roi, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, c'est la période de la guerre, mais j'ai aussi droit de souffler, moi, non? Souffle, David, souffle. Repose-toi. Alors que comme par hasard, lui qui pensait trouver du repos, il n'arrivait pas à dormir. Et c'est étonnant, comme nous, dans nos vies, c'est pareil. Oh Seigneur, non, pas ce soir. Oh là, je comprends. Alors, j'ai envie de me reposer, de me prélasser. Mais en fait, c'est faux. On a juste perdu du temps. Parce que là où on pensait trouver du bien-être, on ne l'a pas trouvé, en fait. Parce que le bien-être, c'est auprès du Seigneur qu'on le trouve. Le rassasiement, c'est auprès du Seigneur. Toutes les fois qu'on dit « Non, Seigneur, j'ai pas le temps de prier. Non, j'ai pas le temps de lire ta Bible. Non, j'ai pas le temps d'aller à l'église. Non, j'ai pas le temps d'obéir. » On dit « Oh, tu sais, j'ai besoin de souffler. Hein. J'ai besoin de prendre du recul. Tu comprends avec tout ce que... » Oui, il comprend. Mais on se trompe nous-mêmes, n'est-ce pas? Et le roi David, là, il voulait jouir un peu de son palais, mais il pouvait pas en jouir. Il n'arrivait pas à dormir. C'est ça, c'est contrariant, ça, quand on veut dormir, qu'on n'arrive pas à dormir. Surtout quand on sait que les autres sont au combat et que nous, on est à la maison. En plus, on culpabilise un peu. Alors, il regarde par la fenêtre et là... Bathsheba, la voisine, elle est bien. Il a commis l'irréparable négligence qui lui a coûté cher pour lui-même, pour ses enfants. Et après, sa vie n'a plus du tout été la même. Plus du tout. Il y a eu un tournant dans sa vie. Échec sur échec, combat sur combat, ses propres enfants. Négligence. Je parlerai de la négligence de Judas. Non pas dans ses actes, mais dans le cœur de Judas. On connaît Judas pour étant celui qui a livré Jésus pour 30 pièces, 30 sous. Pourquoi est-ce que je parle de négligence? Parce que Judas n'a pas veillé sur un problème qu'il avait dans son cœur depuis quelque temps, depuis pas mal de temps. La Bible nous dit que c'était lui le trésorier, c'est lui qui avait la pochette des offrandes. Et puis il piquait dedans, nous dit l'Évangile. Il savait, non? Il savait que c'était pas bien. Mais il a été négligent, il n'a pas cherché à résoudre ce problème dans sa vie. Pas vu, pas pris. Puis ça pose pas de problème. Faisons attention lorsque dans nos vies, on sait qu'il y a un problème et qu'on ne cherche pas à le résoudre. Négligence. Ça se voit pas. J'ai un bon témoignage en église. Le pasteur est content de moi. Et tous les arguments qu'on peut se donner, ça ira mieux demain. Le Seigneur va intervenir. Mais oui, mais il y a des situations où c'est à nous d'intervenir. Est-ce qu'une seule fois Jésus a dit à Judas « Eh, il faut que tu règles ton problème ?» Mais non. Jésus ne va pas faire notre travail. Il nous a donné une intelligence, une conscience, une parole. Il nous a donné des frères et des sœurs. Il nous a donné des orientations. Arrêtons de dire « Seigneur, c'est toi qui vas t'en occuper !» S'il s'en occupe pas maintenant, c'est que c'est à nous de nous en occuper. Faisons attention. Lorsque dans nos vies, on sait qu'il y a un problème, mais... par négligence, par légèreté, par un refus vraiment de prendre le problème à cœur, on laisse ce problème. Négligence terrible pour Judas. Pas pour Jésus, hein. Jésus lui-même, il dit personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et malheur à cet homme qui a préféré se pendre que de se repentir. Quelques-uns dans l'église. Je parle de l'Église avec un grand E. Ont perdu de leur consécration par négligence. Négligence de ces différents points qu'on a pu voir, que ce soit dans le cœur, dans les habitudes, dans l'attachement, dans l'égarement, dans le manque d'engagement de cœur. Ça s'appelle la consécration. La motivation pour l'œuvre de Dieu. Le désir de plaire à Dieu plus que de chercher une satisfaction personnelle. Mais voyons maintenant la consécration avec ce verset de Psaume, au chapitre 2, verset 11, où il est écrit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Si je paraphrase, je pourrais dire « Servez l'Éternel avec sérieux, avec consécration et réjouissez-vous de votre service avec le respect et l'honneur d'être devant Dieu. » Ce n'est pas une question de crainte et de tremblement, d'effroi, de stupeur, non. Cela nous amène à l'honneur et au respect. Mais vous voyez que là, enfin, on trouve cet équilibre qu'on a déjà dit plusieurs fois, que consécration et consommation ne sont pas opposées. Il y a le fait de servir et il y a au fait le fait de se réjouir. Parce que quand il y a les deux, quand il y a le cœur et qu'il y a l'action, alors il y a une bénédiction, mais on verra ça tout à l'heure. Servez l'Éternel. Et ça, c'est un point capital. Nous ne servons pas une institution, nous ne servons pas le pasteur, nous ne servons pas l'église, nous ne servons pas seulement les hommes, nous servons Dieu lui-même. Et ça, c'est le point fondamental de la notion de la consécration. Ce que je fais, quoi que je fasse, que ce soit un service matériel, que ce soit un service relationnel, que ce soit un service spirituel, que ce soit un service visible ou un service invisible, c'est pour toi que je le fais. Non pas en négligeant les autres. Vous connaissez que j'aime pas du tout ce genre de rapport, de phrase qui dit « Ah, je vais à l'église, mais j'y vais pas pour les autres, j'y vais pour Dieu. » Non, bah si, tu vas pour les deux. Si tu as un problème avec ton frère, tu peux pas être en accord non plus avec. Donc c'est pas non plus la notion de « Oh, je fais mon service, qu'importe vis-à-vis des autres. » Non, on verra d'ailleurs la semaine prochaine la consécration avec le rapport aux autres. Donc je vais pas m'étaler dessus. Mais la consécration, c'est celui qui sait que ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Voilà. C'est pour lui, indépendamment. Indépendamment des résultats, indépendamment du qu'en dira-t-on, indépendamment de son bien-être, indépendamment de... Seigneur, ce que je fais, c'est pour toi. C'est pour toi. Que ce soit vis-à-vis des hommes ou dans les choses matérielles, c'est uniquement pour lui que nous le faisons. Il y avait un problème d'ailleurs dans l'église de Corinthe. Il y avait ceux qui disaient pour Paul, ceux pour Pierre, ceux pour... Oh, 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 et Paul disait, c'est pas pour nous là, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Et le regard de la consécration doit d'abord se fixer sur, Seigneur, ce que je fais, c'est pour toi. Servir ne doit pas une recherche de plaisance, de satisfaction personnelle. Mais on le fait par conviction. Seigneur, je veux te servir dans ce domaine parce que je crois que c'est là que tu m'y attends. Seigneur, je m'engage là parce que je sens que c'est ça que tu attends de moi. On ne le fait pas seulement parce que ça me fait plaisir. Tiens, je vais faire de la musique parce que j'aime bien faire de la musique. Ah tiens, le Seigneur m'appelle à prêcher parce que j'aime bien parler. Non. Ah, je vais faire ça parce que j'aime bien me déplacer, alors je vais faire... Non, il y a une conviction que ce que je fais, c'est vraiment là que le Seigneur m'attend. Et ça, c'est important. Il ne faut pas non plus attendre une sorte de mysticisme ou une révélation spirituelle, mais là où vraiment on est prêt à s'investir, malgré les soucis, malgré les malaises, malgré les frustrations, parce que tout service entraîne des frustrations, tout service entraîne des contrariétés. Et la différence, c'est que si nous faisons un service parce que ça nous plaît, parce qu'on trouve ça bien, bah dès qu'il y aura une contrariété, on va lâcher prise. Parce qu'on va dire, oh bah, si c'est ça le service, hein, oh bah, si c'est comme ça, moi j'arrête. Mais quand on le fait pour le Seigneur et qu'on se dit, Seigneur, ce service-là, là, il est nécessaire pour ton œuvre. Alors il y a une conviction spirituelle. Et même quand on se prend des claques, et même quand on prend des coups, et même si ça se passe mal, et même si on est contrarié, alors parce qu'on le fait pour lui, on l'accepte. On accepte. On ne développe pas évidemment cette notion. Nous supportons les inconvénients. Nous ne le faisons pas évidemment pour nous glorifier, pour être estimés, pour être valorisés. Vous avez vu ? Comme je joue bien. Je crois même de temps en temps, je suis sûr que le Seigneur nous permet de faire des erreurs pour qu'on s'enorgueille pas. Hein ? Bon, faut pas en faire trop quand même. Hein ? Mais un service pour se mettre en évidence, c'est l'échec. L'intérêt dans le service, ce n'est pas nous. L'intérêt dans le service, c'est ceux que l'on sert, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes au service des autres. consacré. Ça veut dire aussi se prendre beaucoup de claques. Bon, c'est vrai dans le monde de manière générale, hein. Comme on dit, hein, y a que ceux qui font rien qui Et c'est vrai que dès qu'on veut s'engager dans quelque chose, alors c'est là que on a tout. On a des remarques justifiées. Bah oui, on a des remarques injustifiées. Et des fois c'est dit délicatement, et puis des fois avec beaucoup moins de délicatesse. Mais ça fait partie. Et puis quand il y en a un peu trop, alors on finit par dire « Oh, si c'est comme ça, j'arrête, j'en ai marre, je suis découragé !» Mais oui. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça fait partie de la consécration. Et c'est des choses normales. Non pas à cause des autres, mais à cause du combat spirituel. Parce que si Dieu nous appelle au service, le diable, lui, nous invite au non-service. Alors c'est tout à fait normal qu'on se prenne des claques d'une manière ou d'une autre, qu'on soit dans des moments de découragement, de lassitude, où véritablement, alors on a dit, Seigneur, si ça continue comme ça, là c'est fini, hein. Et là on est sérieux quand on parle au Seigneur comme ça, hein. Peut-être même pas avec autant d'énergie, on est complètement là dans les larmes et dans l'abattement. Oh oh oh, réalisez que celui qui vous amène à ce genre de logique, c'est le diable, qui lui veut vous faire perdre ce terrain de la consécration, du service. Servir avec crainte. Qu'est-ce que c'est une si petite expression? C'est servir avec sérieux. C'est servir correctement. C'est servir comme sous le regard du Seigneur. J'avais entendu une anecdote. Enfin, oui, une histoire qui devient une anecdote. C'était dans une école biblique. Et pas à Léognan, pas là où je suis allé. Bon, voilà, il y avait les étudiants qui vivent dans la maison. Et donc, il y a des tâches ménagères. Et un jour, le directeur, il prend un étudiant, il dit, dis-moi, il faudrait nettoyer les carreaux, tu peux faire ça? Ouais, pas de problème, monsieur le directeur. Et voilà, il nettoie les carreaux. Et puis, en fin de journée, le directeur, il repasse. Tiens, mes carreaux, ils étaient sales. Bah, c'est bizarre, pourtant, je l'ai vu dans la journée. Et regarde. Ah, il comprend. En fait, le gars, il avait nettoyé les carreaux seulement de l'intérieur. Pas à l'extérieur. Il appelle le jeune. Les carreaux, pourquoi t'as pas nettoyé? Ah bah, vous ne l'avez pas demandé? Soyons sérieux dans notre service. On a compris que le jeune, il a vite fait ça, là. Chut. Ah, j'ai lavé! Mais il n'y avait pas la consécration, il n'y avait pas le sérieux. Allez, on va maintenir le bon sens. Il faut être sérieux dans notre service. Je le rappelle, parce que l'anecdote est amusante, mais elle est forcément révélatrice de notre relation au Seigneur, de notre attachement. C'est une illustration amusante parce que j'aurais pu vous en donner bien d'autres. Où des gens ont été négligents dans leur service, quitte même à mentir, à dire qu'ils ont fait une chose qu'ils n'ont pas faite, ou à paraître. Négligents dans leur ponctualité, négligents dans leur travail. Et dans tous les exemples qui me défilent dans la tête, quelques semaines après, ils n'étaient plus dans l'église. Parce que quand on commence à vouloir tromper l'Éternel dans le service, parce que c'est ça la consécration au service, quand on commence à vouloir tromper les hommes, parce que nos œuvres sont forcément observées des hommes, c'est qu'il y a déjà un processus qui est dangereux dans le cœur et qui a nécessité d'être repris. L'œuvre de Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes, mes bien-aimés. L'œuvre de Dieu mérite le meilleur. Je sais qu'on n'est pas les meilleurs, mais la consécration fait que, Seigneur, je veux faire le mieux pour toi. Je veux vraiment que ce que je fais, même si je ne suis pas parfait, mais je ne veux pas qu'il y ait de la négligence. J'essaie de faire le meilleur pour toi, pour ton œuvre, pour ton intérêt. Quel que soit notre domaine d'activité, il faut que nous recherchions la qualité, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les chants, que ce soit dans le ménage. Vous savez que je suis plus regardant sur le ménage à l'église que le ménage chez moi. Bah oui, chez moi, c'est pas grave, c'est moi qui vis dans ma poussière. Mais ici, dans la maison de Dieu, ça doit refléter l'atmosphère du ciel. Nous devrions avoir plus d'intérêt et plus de soucis pour les choses qui concernent l'œuvre de Dieu que nos propres affaires. Nous devons rechercher à mieux faire. Il y a eu quelques années, j'avais été surpris parce que je n'avais pas été, on va dire, éduqué spirituellement dans cette consécration au sens de bien faire, de trouver l'excellence. Et un jour, j'ai rencontré une dame qui était responsable de la chorale de son église. Et en discutant avec elle, j'ai appris que récemment, elle avait décidé de s'inscrire au cours de musique afin de progresser dans le chant. Et je trouvais ça beau. Elle avait déjà une quarantaine passée. Mais avec le désir d'être plus performant dans le service dans l'église, alors elle acceptait encore d'apprendre des choses. Mais ça doit être la même chose pour tous ceux qui travaillent à la prédication. Je bénis les moniteurs quand ils prennent le temps d'aller se former, d'aller dans des rencontres afin de développer leurs compétences, leur savoir-faire. Nous avons besoin, non pas de rester sur nos acquis, mais de nous développer, d'apprendre, afin de donner au Seigneur le meilleur que nous pouvons lui faire. Servir avec crainte, avec honnêteté, avec sérieux, c'est être des hommes et des femmes honnêtes, vrais, des hommes responsables. Tous ceux qui ont déjà travaillé en équipe, indépendamment de l'église, même sur le lieu de travail, combien c'est fatigant. Quand c'est monsieur X qui doit faire le boulot, et que c'est nous qui devons finir son boulot, hein ? Ou qu'on doit repasser derrière lui. Alors comme on est chrétien, on le bénit. Mais la nature aurait vraiment envie de lui dire « Oh, là-bas, c'est toujours les mêmes !» Mais dans l'œuvre de Dieu, nous devons être sérieux, honnêtes, être des hommes et des femmes responsables, à qui, lorsque l'on confie quelque chose, tous ceux qui sont autour puissent se dire « Ah, avec le frère, avec la sœur, on est tranquille. » Il va faire ça correctement, il va être vigilant, il va anticiper, il va suivre. C'est ça, servir l'Éternel avec crainte, avec ce désir de bien faire dans les moindres détails, digne de confiance. Des hommes et des femmes sur qui on peut compter, parce qu'il n'y aura pas besoin d'être derrière, de vérifier, de rattraper. Servir avec la crainte de mal faire, avec la crainte de ne pas bien remplir notre mission. Et ça, c'est un principe que Jésus lui-même a établi. Il nous demande d'être fidèles dans les petites choses afin de pouvoir nous en confier de plus grandes. Ne jalousons jamais les autres, mes bien-aimés. On va développer ça la semaine prochaine. Si Dieu nous donne petit, mais encore, la notion de petit, je reprends juste les termes bibliques pour nous donner l'image. C'est là-dessus que le Seigneur va nous demander compte. Et s'il nous trouve fidèles, intègres dans ces petites-là, alors il nous confiera de plus grandes. C'est pour ça que je mets ces mots entre guillemets. Parce que si un jour le Seigneur nous demande de parler à une âme du Seigneur, petite chose ou grande chose? Le Seigneur nous apprenne jour après jour, au travers des petites choses de la vie, à aller plus loin, dans les circonstances de la vie, dans une remarque. C'est par les petites choses de la vie, les circonstances de la vie, que Dieu prépare notre cœur à avoir peut-être à affronter demain des circonstances plus éprouvantes. Ne négligeons pas ce que nous appelons petit ou vain. C'est le chemin de l'apprentissage. Réjouissez-vous, dit la suite du verset, avec tremblement. Réjouissez-vous de votre service avec respect et honneur, car il y a véritablement une bénédiction pour ceux qui servent le Seigneur avec consécration. Servir le Seigneur sans consécration, ça peut être besogneux, on se prend la tête, ça c'est sûr. Mais servir avec consécration, avec le désir de plaire à Dieu, ça change tout. Et là, il y a véritablement une bénédiction. Paul le dit très clairement dans la première épître à Timothée, chapitre 3, verset 13. Il dit « Ceux qui remplissent convenablement, il insiste bien, convenablement leur ministère. Mon ministère, on peut le traduire par le mot service. Hein. Donc ceux qui remplissent convenablement leur service s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Quiconque sert le Seigneur, quel que soit son domaine, convenablement, avec sérieux, avec consécration, il reçoit une bénédiction spirituelle, une assurance dans la foi. Servir le Seigneur avec consécration, c'est avoir l'assurance que le Seigneur est avec nous. Vous le lirez dans Actes, dans Marc chapitre 16 verset 20, il nous dit que le Seigneur travaillait avec eux, mais il travaillait avec eux parce que c'était eux qui étaient déjà à l'œuvre. Ils étaient zélés et le Seigneur travaille. C'est en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 qui nous est dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais quelle grâce quand on est dans notre service et qu'on sent le Seigneur avec nous. Quand il nous aide, quand il nous inspire, quand, lorsqu'on est découragé, c'est lui qui sait nous encourager de manière bien souvent surnaturelle. Mais quelle grâce de sentir que là où on peine peut-être dans notre service, et le Seigneur met sa main sur d'autres situations de notre vie, comme pour nous soulager. Il n'y a que dans un service consacré que l'on peut vivre ces expériences. Si nous servons le Seigneur avec négligence, alors si tu veux te reposer à la fois sur ton service et à la fois sur ton repos perso, bah, récupère les bénéfices de ton repos perso. Mais quand nous sommes consacrés au Seigneur, alors le Seigneur nous donne une consolation qui vient de sa propre main. Amen. Dans le même esprit, j'ai voulu aborder ce matin la notion des offrandes. Ce sera court. Et avant de commencer le verset, ouais, tu peux le mettre. Avant de lire ce verset-là, je voudrais juste vous raconter une autre petite anecdote. C'était un enfant, un petit garçon, qui va avec ses parents à l'église. Et sa maman lui donne 2 pièces. Alors je ne sais pas si à l'époque c'était des francs. Ouais. À l'époque c'était 2 pièces de 5 ou de 10 francs, comme vous voulez. Alors il a ces 2 petites pièces qui sont pareilles, hein, une pièce de 5 francs, une autre pièce de 5 francs. Et puis vous avez comment... Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand on leur donne 2 pièces? Ils jouent avec. Alors ils jouent. Et qu'est-ce que disent les parents? Range-les, sinon... Et qu'est-ce que font les enfants? Il joue avec, ok, donc c'est bien un enfant normal. Alors il joue, et avant de lui donner ses 2 petites pièces, sa maman lui dit, bon, cette pièce-là, hein, tu donneras 1 pièce pour l'ordre des enfants, hein, pour la mission, pour l'église, pour Dieu. Ça, c'est la pièce pour Dieu, et puis cette autre pièce, je te la donne, parce que comme ça, après l'église, eh ben, quand on ira chercher le pain, eh ben, tu pourras acheter des bonbons avec. D'accord, d'accord. Alors il était content, c'était sa petite pièce pour Jésus, sa pièce pour les bonbons. Il joue. Donc, attention. Il joue. Il descend de la voiture, il joue. Ah, malin! Une pièce lui échappe des mains. Elle roule, il court après. Il essaie de la rattraper. Oh là là, dans le calibre. Pouf. Oh, et l'enfant qui... Oh mince, la pièce de Jésus. Bah ouais, c'était pas la pièce des bonbons qui avait disparu, c'est bizarre. La pièce de Jésus, il avait perdu la pièce de Jésus. Au niveau des offrandes, nous rigolons, mais la notion de consécration est la même. Qu'est-ce qu'on donne au Seigneur? Le reste de nos restes? Ou est-ce qu'il y a une notion de consécration? C'est-à-dire de priorité. Le Seigneur, c'est pour toi que je donne. Et ce texte-là que nous allons lire de Malachie chapitre 3 verset 8, vous allez vous apercevoir que ce qui est incroyable dans ce texte, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes principes que dans, par rapport au service visible, au service actif. Malachie chapitre 3 verset 8, voilà ce que dit Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, bon, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. On retrouve les mêmes termes. Et vous me trompez? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous retrouvons exactement le même schéma qu'avec le service. L'œuvre de Dieu est lésée. L'œuvre de Dieu est trompée. Si, si, j'ai nettoyé les carreaux, hein. Tu veux tromper qui, là? Oui, j'ai fait le ménage. Après que quand on arrive, il y a encore de la poussière partout. Oui, oui, Seigneur. L'œuvre de Dieu est trompée. Ce n'est pas une question d'avoir fait l'acte ou pas l'acte. Mais c'est Dieu lui-même qui est trompé. Et le problème, c'est que l'habitude de la négligence faisait que le peuple de Dieu, en négligeant ses offrandes, n'avait pas réalisé que c'était Dieu lui-même qui le trompait. Vous me trompez ? Bon, attends, en quoi on te trompe ? Bah, dans les offrandes. Comme si dans leur esprit, mais le fait de donner à l'œuvre de Dieu, c'était pas tout à fait à Dieu lui-même qu'on donnait. Et c'est pour ça que je dis attention aux habitudes de négligence, parce que la consécration n'est pas seulement le fait de l'acte, des personnes, de ce que l'on voit, mais on sert le Dieu lui-même. Et là, il faut que nous ayons une perception, une vision spirituelle. Quand nous servons dans la consécration, nous avons une vision bien plus haute que ce que nous pouvons voir, toucher, sentir. Au-delà des besoins de l'Église, c'est le Seigneur que l'on sert lui-même. Et le peuple, ils en étaient venus à dire, en quoi est-ce qu'on t'a trompé ? Bien sûr, tout le monde savait qu'ils bricolaient sur leurs offrandes, qu'ils donnaient que des bêtes à moitié malades ou chétives, qu'ils trompaient un peu sur les dimensions de ce qu'ils pouvaient donner. Mais ils disaient, bon, on s'en sort, ça va quand même, faut pas exagérer. Mais c'est Dieu qui dit, mais c'est moi que vous trompez là. C'est pas seulement une question de matériel, c'est pas une question seulement de brebis. L'or et l'argent appartiennent à qui ?
À Dieu.
Amen.
Mais, par leur état de cœur, ils sont en train de révéler leur manque d'attachement, de consécration. Et pourtant, Jésus leur dit bien, pourtant c'est à cause de votre négligence que vous êtes dans le malheur. C'est à cause de cette négligence-là que vous êtes dans la malédiction. C'est à cause de cette malheur-là, de cette situation-là, de ce manque de consécration que vous connaissez des difficultés. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. On retrouve la même logique. Et avec la même logique, le Seigneur les invite à servir l'Éternel avec sérieux, avec respect, avec crainte. Mais mettez-moi à l'épreuve. C'est Dieu qui dit ça, c'est incroyable. Au lieu de leur envoyer le feu du ciel, il leur donne encore une chance. Ressaisissez-vous et vous verrez. Vous êtes en train de faire des calculs là. Et avec vos calculs, vous êtes malheureux. Mais revenez à moi. Soyez consacrés de cœur. Revenez dans une mentalité de désir de me servir moi. Et vous verrez si moi je ne vais pas vous bénir, si moi je ne vais pas intervenir. Et là, il y a de la joie. Là, il y a de la satisfaction. Là, il y a une bénédiction qui n'est pas seulement matérielle, mais qui est spirituelle. Parce que vous savez, la notion de bonheur, on l'a tous expérimenté. Hein. Ce n'est pas au volume du frigo qu'on l'a. Tantôt, on peut tout avoir. Et puis, dans le cœur, il manque quelque chose. Mais on a pu tous aussi expérimenter, de connaître des difficultés, mais que la grâce de Dieu qui remplissait notre cœur était bien plus forte que toutes ces considérations extérieures, n'est-ce pas ? Le bonheur, la grâce nous viennent du ciel, mes bien-aimés. Et Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve en retournant dans une consécration de cœur. Je profite de l'aparté, enfin du sujet, parce qu'on n'aborde pas le sujet tous les jours, de dire quand même, hein, parce que c'est souvent ces textes-là qui sont utilisés pour aussi apporter ce que j'appelle de faux enseignements. L'évangile de la prospérité qui a pour slogan donnez, donnez, donnez et Dieu vous donnera, vous donnera. C'est un mensonge. Dieu condamne la paresse et il avertit les paresseux qu'ils n'auront rien dans leur assiette. Dieu n'a jamais encouragé à faire des dettes, à s'endetter afin d'enrichir certains hommes ou certaines institutions. Non. D'ailleurs, il y a juste à lire Luc chapitre 21. Quand Jésus voit les gens, comment ils donnent. Il y avait certains qui donnaient beaucoup, donnait beaucoup. Mais l'approbation de Dieu apportée sur les deux petites pièces qu'une dame a données. Parce qu'il a vu dans le cœur de cette femme la consécration qu'il n'y avait pas dans le cœur des autres. Dieu bénit la consécration. Il ne bénit pas l'activisme. Dieu bénit ce que nous pouvons faire avec sérieux, avec honnêteté, avec engagement. Dieu bénit cette démarche, même si elle n'est que de deux pièces, même si elle n'est que de laver le ménage, ne faire que le ménage. Et j'insiste quand je dis que, c'est par provocation, parce que certains peuvent considérer ça comme des petites choses. Mais tout ce que l'on fait devant le Seigneur, ce sont des grandes choses. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a rien à négliger, rien, rien. Imaginez si chaque goutte qui tombait du ciel disait « Oh non, moi je suis qu'une goutte, je reste en haut. » Ben oui. « Oh non, je suis rien du tout. Qu'est-ce que je vais faire, hein? On n'a pas besoin de moi, je reste au ciel. » Et que chaque goutte se dise la même chose. Mais il en est de même dans l'œuvre de Dieu. « Seigneur, ce que je fais, c'est pour toi, Seigneur. Et ce que je fais, je veux le faire avec sérieux. Je veux le faire avec crainte, tremblement. Je veux le faire avec ton approbation. Ce que je fais, je veux que toi, tu sois d'accord avec moi. » Et ça change tout. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Même si vous ne faites rien, vous savez. Et si vous faites aussi. Peut-être que vous êtes critiquable parce que vous êtes imparfait. Ben oui, moi le premier. Mais l'essentiel, c'est de vouloir bien faire. De le faire pour le Seigneur. Et de s'attacher, non pas à nos mauvaises habitudes, mais de nous attacher au service que l'on veut faire consciencieusement pour le Seigneur et pour les autres. Amen. On terminera juste sur ce verset-là, qui se lit en Colossiens chapitre 4, verset 17. Paul dit à un homme qui s'appelle Archip, mais vous pouvez mettre votre prénom, hein. Dites à, alors mettez votre prénom, le prénom de votre femme ou votre mari, comme ça. Dites à Archip, prends garde au ministère, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Prends garde. On ne connaît pas les raisons qui ont poussé Paul à parler ainsi à Archip. Mais on peut comprendre que cette recommandation, elle est pour tous les enfants de Dieu. Prends garde. Veille. Sois vigilant sur le service pour lequel le Seigneur t'a appelé. Ce qui est dans ton cœur. Ce pourquoi il t'a appelé. Ce pourquoi il t'a donné des dons. Ce pourquoi tu sais que tu as des capacités. Ce pourquoi peut-être tu as l'impression de ne pas avoir de capacités, mais le Seigneur te demande quand même de le faire. Veille sur cela afin de bien le remplir. Car ce n'est pas seulement devant les hommes que nous rendrons compte. Mais ce sera au Seigneur. Amen. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup d'assurance dans la foi pour quiconque remplit convenablement son service. Amen. Amen.